Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, chapitre 10, troisième expédition. L'aube était grise et pluvieuse lorsqu'Eleanor et Keller parvinrent à la porte nord. Les traces noirâtres des bûchers funéraires, lavées par la pluie, se voyaient encore sur les dalles blanches. Keller jeta un coup d'œil aux deux énormes vantaux de la porte de métal, entièrement sculptés. Son regard s'arrêta un instant sur la représentation d'un combat entre des guerriers et des créatures écailleuses qui ressemblaient à des serpents ailés. Eleanor le tira doucement par le bras pour le ramener à l'instant présent. Les citoyens affluaient, certains préparés pour l'expédition, d'autres pour leur dire au revoir, d'autres enfin pour saluer le départ du cortège. Jamais Albâtre ne s'était levé si tôt en plein hiver. On avait décidé de faire appel à toutes les bonnes volontés et de tabler sur la supériorité numérique à défaut d'autre chose. Ils étaient donc environ 200 à partir ce matin, une vraie petite armée de réservistes effarés, peu habitués à se battre et encore moins à supporter les privations, les fatigues et les attentes interminables d'une campagne militaire. Keller les vit s'attrouper comme pour entrer au théâtre et, sans vraiment réfléchir, se plaça auprès des portes dans l'encadrement énorme. Tout le monde n'était pas arrivé, mais un groupe déjà nombreux se massait. Dans le pêle-mêle du départ, civils et soldats de fortune, accompagnants et membres de l'expédition, échangeant des objets, des recommandations et des larmes. « Citoyens !» appela Keller de sa voix puissante. Un silence relatif lui permit de continuer dans l'air humide et ouaté qui faisait résonner étrangement sa voix. « La marche d'approche durera au moins 2 jours, et peut-être 3. Nous marcherons tout le jour, bivouaquerons et repartirons dès que possible. Notre nombre, qui est notre atout majeur, nous ralentira, et ne nous pourrons pas faire de pause. Vérifiez votre équipement, vos chaussures, vos gants, car le froid va s'infiltrer dans notre chair. » Il y eut quelques murmures, puis Keller reprit. Aucun de nous n'est habitué à ce qui nous attend. Et ce qui nous attend pour l'heure, ce ne sont pas des combats héroïques contre la Guilde de l'Ombre, c'est un combat de 48 heures et peut-être plus, contre la douleur, le froid, l'épuisement musculaire. Vous devez vous préparer à cela, utiliser l'esprit pour vous soutenir lorsque vous en êtes capable, vous entraider aussi pendant cette longue marche, dont certains passages sont abrupts. Je propose que les anciens de l'armée du soulèvement et les anciens membres de la guilde du pouvoir se détachent des rangs pour assurer l'avant et l'arrière-garde. Je les affecterai personnellement. J'ai besoin aussi d'éclaireurs, rompus à la marche en terrain accidenté, qu'ils se rassemblent autour de Cardone. Eleanor assurera la surveillance spirituelle du cortège, mais elle aura besoin de quelques autres utilisateurs émérites de l'esprit. À part cela, natifs de Haute et de Basseville doivent se mélanger dans les rangs. Il s'ensuivit un brouhaha grandissant et une profonde confusion régna sur la place pendant près d'une heure. On se bousculait, on cherchait à parler à Keller, on s'organisait tant bien que mal dans l'entassement des gens et du matériel. Et puis les nuages, qui suintaient depuis tout à l'heure une petite pluie fine et pénétrante, se mirent à crever et des trombes d'eau commencèrent à dégouliner dans les cheveux, les vêtements. Cela hâta la marche générale et, comme par un sombre enchantement, le cortège fut soudain en ordre de marche. Les citoyens qui étaient venus assister au départ, au mépris de la pluie, emmitouflés dans leur chape, virent la longue file humaine se mettre péniblement en branle, l'air déjà là. Ils gardèrent une impression désastreuse de cette mise en route, et lorsque l'arrière-garde disparut à l'horizon et que les clameurs du cortège se furent éteintes, ils retournèrent à l'ombre de leur palais, avec au cœur le grand froid des causes perdues. Le soleil commençait à descendre dans le ciel, et la lumière déjà hivernale prenait des teintes roses. Cela faisait des heures que l'on marchait. Comme Keller l'avait prévu, la grande angoisse du départ était passée. On ne pensait plus à la mort, ni même au combat, dans cette promiscuité bon enfant. La pluie avait d'ailleurs cédé la place à de belles éclaircies, qui avaient réchauffé les âmes et les chapes, dans un brouillard où s'évaporaient, par la chaleur de la camaraderie, les larmes désespérées de l'aube. Eleanor et Keller marchaient de front, dans le premier tiers du cortège. Eleanor avait pris avec elle plusieurs des disciples d'Irene, rescapés de l'accident, dont la vieille Morga, qu'aucun discours n'était parvenu à convaincre de rester. Mais pour le moment, la surveillance spirituelle était calme, l'esprit de Sornar ne paraissait pas présent. Des conversations leur parvenaient, qui les faisaient sourire. « Les pragmatistes n'ont pas osé se montrer ce matin, » disait un homme natif de Villebasse. « Ils sont trop pragmatiques et tiennent à leur peau, » plaisanta un autre. « Vous rappelez-vous leur triste discours au forum ?»« Une honte !» s'écria un natif de Hauteville. « Jamais Ruben ne s'était exprimé dans un verbe aussi pauvre !» Keller jeta un œil à Eleanor. « Notre chemin va peut-être s'arrêter là, mais nous aurons au moins vécu pour entendre ça, » lui souffla-t-il à l'oreille. « Oui, » dit-elle en riant, « nous pouvons être fiers de cela. » Un peu plus loin devant, Cardone était en train de raconter ses exploits à une jeune native de Hauteville, à l'élégante pierre frontale étoilée, qui l'écoutait avec un vif intérêt. Les générations se mélangeaient, aussi bien que les origines. « Comment décrirais-tu l'ambiance du cortège ?» demanda soudain Keller à Eleanor. Elle regarda tout autour d'elle, tendit l'oreille, et son visage souriant revint vers Keller. « Il y a une sorte de gaieté, » dit-elle. C'est l'une des leçons les plus inattendues de la guerre, cette gaieté d'avant les combats. « Puisse-t-elle durer ?» murmura Eleanor. Mais elle ne dura guère. La tombée de la nuit et les difficultés pour établir le campement eurent raison de presque toutes les bonnes humeurs. On commençait à se plaindre du froid, des crampes et des ampoules, et les maigres provisions à moitié écrasées qui sortirent des besaces ne constituèrent qu'un triste festin. On dormit, assommé de fatigue, mais on se réveilla perclus de douleur. La seconde journée, qui demeura grise du lever au coucher du soleil, fut plus silencieuse et plus terne, comme si une chape de plomb était tombée sur eux. Après le déjeuner, le terrain commença à devenir difficile. Il fallait remonter la rivière, parfois passer à gué, ou grimper en s'aidant des mains. La marche fut terriblement ralentie, et il devint vite évident à Keller que l'approche prendrait 3 jours plutôt que 2. Enfin, au milieu du 3e jour, on arriva à proximité du site. Il fallait se reposer au moins quelques minutes, laisser les tentes et les objets lourds, préparer les armes. Pis encore, il fallait, alors qu'on était à bout de force, se lancer dans une offensive. Quand Keller regarda les troupes déguenillées et grimaçantes, il consulta les anciens de l'armée du soulèvement. « Pensez-vous qu'il soit possible de lancer l'offensive dans la foulée ?»« Nous ne marchons que depuis 4 heures, » observa Cardone. « Ça pourrait être pire. »« Mais regarde-les, ils n'en peuvent plus. » « Crois-tu que d'attendre ici soit vraiment préférable ?» demanda à Eleanor. « Non, l'effet de surprise est tout ce que nous avons en plus du nombre. Nous ne pouvons pas vraiment nous en passer. » « Alors la question n'est pas de savoir si on va le faire, mais comment on va le faire. » « La petite dame ne pourrait pas chanter une de ses chansons ?» À Eleanor sourit. Le verbe « chanter » était couramment employé parmi les natifs de Villebasse pour désigner l'usage du verbe, et cet usage l'avait toujours amusé. « Si, je suppose. » Une méditation collective ? Oui, quelque chose qui repose et qui concentre à la fois, et qui renforce l'esprit de groupe. Keller toucha tendrement la joue marquée d'A Eleanor, en essayant de ne pas songer au fait que ce geste familier n'aurait peut-être pas de lendemain. A Eleanor lui saisit la main doucement et la serra, puis elle se tourna vers les troupes effondrées sur le sol. Le terrain était arboré, accidenté, il n'y avait nulle place pour une cérémonie de grande envergure. Il lui faudrait procéder par petits groupes et demander de l'aide. « Morga, sauriez-vous vous charger d'une transe collective auprès d'un groupe ?» La vieille femme acquiesça, et toutes les deux organisèrent tant bien que mal une séance de méditation collective. À quelques dizaines de mètres à peine, sous la montagne, Joris échangeait quelques derniers mots avec l'enfant Sornard. « As-tu pris ta décision, Joris ?»« Non, maître. Je saisirai le Kairos lorsqu'il se présentera. » « Je te quitte alors et te souhaite de ne pas te tromper. Je vais attendre dans ma cellule que tu auras l'obligeance de fermer de l'extérieur. Attendre la délivrance. » Joris ne s'attarda pas. Il ferma, comme le lui avait demandé Sornard, la porte à double tour et lança la clé au loin. Les frères sombres attendaient ses ordres. Ils s'étaient rassemblés dans la cathédrale. « Mes frères !» déclama-t-il, tandis que sa pierre frontale illuminait la caverne de lueurs dansantes. « Voici venu le temps du sacrifice. Le maître qui nous a tirés du néant et qui nous a offert la puissance et le mépris du monde, le maître qui a vaincu la mort, nous a choisis pour ce rôle glorieux. Dans cette caverne qui fut pour nous tout l'univers durant ces 3 dernières années, nous allons mener notre dernière bataille. Au sein de cette montagne, pour accomplir jusqu'au bout de l'ombre notre devoir, pour faire hurler le métal de la nuit. » Nous donnerons la mort dans un ultime rituel, dans une offrande de sang. Nous tuerons et nous mourrons dans l'éternelle nuit, et le jour pour nous ne se lèvera plus. Au fond de vos esprits endurcis, où règne le noir, la mort vous appelle. Elle sera sublime et voluptueuse, charnelle, et vous embrasserez l'acier avec un désir de tout votre corps. La mort vous appelle, frère de l'ombre, son corps blanc rayonne au fond du sacrifice, et vous la violerez, déchaînée, ultime, dans l'éclaboussement brûlant de votre sang répandu. Les frères sombres étaient rompus à l'exercice de la patience. Le temps qu'ils avaient à franchir n'était jamais ni trop court ni trop long, car il était simplement la distance qui séparait les événements, et il n'y avait pas plus lieu de s'en plaindre que de l'éloignement d'un point à un autre dans l'espace. Ils demeurèrent relativement silencieux, dans cette étrange caverne où ils avaient rarement pénétré, et qui constituerait donc le théâtre grandiose de leur sacrifice. Joris les entendait à peine, comme s'ils n'étaient pas vraiment humains, et il se prit à mépriser vaguement leur dévouement servile. Allaient-ils, ainsi qu'on les y invitait, mourir dans une ardente explosion sensuelle? Et lui-même, qu'allait-il faire? La loyauté qui avait été son soutien, sa passion même, pendant plusieurs années, s'était irrémédiablement fêlée lorsque Sornar avait pénétré son esprit. Puis la fissure s'était agrandie, et il la voyait aujourd'hui sur le point de voler en éclats. Que pouvait-il lui rester si cette loyauté le désertait? Valet d'un maître qu'il n'estimait plus, mais dont il avait peur, pion impuissant de desseins qu'il ne pouvait s'empêcher de juger, et dont il espérait secrètement l'échec, marionnette rebelle et désarticulée, qui n'obéissait plus qu'à contre-cœur au fil brisé qu'il actionnait, cette vie ne valait pas la peine d'être vécue. Il songea à sa sœur, qu'il avait détestée si fort jadis, et se souvint de cette fameuse nuit de chaos où il avait arraché le fruit de ses entrailles en la tuant à demi. Cet acte lui paraissait étrange et étranger. La pensée de son neveu emmurée dans son silence l'emplissait de dégoût. Mais qui pouvait-il? Que pouvait un amant qui avait tué père et mère pour les beaux yeux d'une maîtresse dont il se détournait finalement? Le meurtre avait ceci de particulier qu'il ne permettait aucun retour en arrière et laissait sur les mains du meurtrier un rouge indélébile et poisseux qui collait à tous ses actes. La mort donnée appelait la mort reçue. La mort seule était assez radicale pour redevenir soi. Joris pensa un instant à l'alternative. Tomber à genoux, implorer son pardon, pleurer de repentir auprès de sa sœur, qui le prendrait sans doute en pitié. Vivre sous l'éternelle domination de Sornar, qui n'aurait de cesse de l'utiliser et qui le supprimerait sans pitié s'il s'avisait de le trahir. Non, cette vie était celle d'un lâche, et Joris n'était pas un lâche. Il se sentit un peu plus léger lorsqu'il comprit que sa décision de mourir était déjà prise. Mais il lui restait une autre décision à prendre. Allait-il obéir simplement aux ordres de Sornar et se laisser tuer? Ou bien allait-il le trahir à la fin? Sornar avait promis de ne plus quitter l'esprit de l'enfant. C'était là peut-être une occasion unique. Il pouvait retrouver la clé, rouvrir la porte et étrangler le petit être de ses propres mains. Sornar, avec un peu de chance, disparaîtrait avec son hôte, et si d'aventure son âme maudite réussissait à survivre, il serait peut-être pour toujours privé de corps. Sa seconde incarnation n'aurait jamais lieu, et Joris mort, les frères sombres dispersés, il n'aurait plus de secte. Ceux de la cité monastère seraient-ils assez forts par l'esprit pour communiquer avec lui? Et surtout, privé de chef, n'allaient-ils pas inéluctablement voler de leurs propres ailes et rompre leur allégeance? Tuer l'enfant était peut-être le seul dernier acte possible de son existence, l'acte qui réparerait le mal fait à sa sœur en l'empêchant d'accueillir en son sein la vipère qui s'apprêtait à y nicher, l'acte qui consommerait sa rébellion contre le maître destitué, l'acte qui rendrait sa propre mort aussi urgente que nécessaire. Il sortit de sa méditation en entendant les premiers pas des gens d'Albâtre dans le tunnel. Ils avaient été plus rapides qu'il ne l'avait pensé, à moins que le temps eût passé vite. Il jeta un regard à ses frères sombres, chacun au sommet de sa puissance et de sa concentration, l'œil étincelant, la lame avide de sang, immobile. Les pas se rapprochaient, dans un bruit grandissant qui contrastait étrangement avec le silence de la cathédrale. Joris, prompt et évanescent comme une ombre, s'engouffra dans un raccourci et se dirigea vers la cellule de l'enfant. Il avait jeté la clé au loin et dut se reprendre à plusieurs fois avant de se rappeler dans quelle direction. Il entendait l'enfant qui appelait « Au secours! Au secours !» Sornard avait donc commencé à jouer son sinistre rôle, et il était plus vrai que nature. La cavalcade s'était accrue, et le bruit des combats éclata comme un tonnerre, démultiplié dans les hauteurs de la vaste voûte. Il lui fallait se dépêcher. Enfin, il vit la clé luire faiblement dans l'ombre, à la lueur fébrile de sa pierre frontale, et il s'en saisit. Avec précipitation, il l'introduisit dans la serrure et commençait à la tourner lorsqu'il perçut derrière lui des présences ennemies. Il se retourna en même temps qu'il poussait violemment la porte et tout se passa très vite à partir de cet instant. Il reconnut à Eleanor et Keller, essoufflés, des éclaboussures de sang striant leur visage. L'enfant continuait à hurler « Au secours, je vous en prie !» Il rassembla toute sa détermination et tenta de prendre tout le monde de vitesse. Il s'engouffra dans la pièce et tenta de refermer la porte. Mais Keller avait été plus rapide et il dut renoncer à cette idée. « Sauvez-moi, par pitié !» hurlait l'enfant. Keller, l'air fou, s'interposait dans le chambranle de la porte, tandis qu'Eleanor, de sa voix de verbe, lui enjoignait de se rendre. Mais elle ne le regardait pas dans les yeux, et la tentation était facile à repousser. L'enfant paraissait réellement terrifié. Il regardait Joris de ses yeux suppliants, et Joris revit en un éclair tous les étranges soins qu'il lui avait donnés depuis sa naissance et l'espèce de familiarité qui s'était nouée entre eux avant le retour de Sornard. Ce ne fut qu'un bref, un très bref instant d'hésitation, mais cela suffit à Keller pour empoigner Joris et le mettre à terre, et à Eleanor pour le foudroyer de son regard d'acier. « Ne bouge plus !» hurla-t-elle, d'une voix qui prit une résonance gutturale qu'il n'avait jamais entendue. L'enfant éclata en sanglots nerveux et se précipita sur ses sauveurs en hoquetant. Keller, déjà agenouillé, fut le premier qui le tint dans ses bras. La sensation fut intense. Il était de la même taille qu'Artus, mais plus sec, plus maigre et plus nerveux. C'était son fils qu'il venait d'arracher à une mort certaine, qui naissait à nouveau. Il était incapable de parler ou de penser et ne s'aperçut pas que l'enfant, adroitement, se saisissait de la dague qui pendait à sa ceinture. « Eleanor, dit Joris, écoute-moi, tais-toi » enjoignit-elle avec rudesse. Il essaya de parler, mais la contrainte qu'il avait subie était trop forte. Il était réduit au silence et ne put rien dire lorsqu'il vit la main armée de l'enfant s'approcher de son cœur. Il regarda l'enfant dans les yeux tandis que la lame s'enfonçait silencieusement dans sa chair et coupait sa respiration par une douleur exquise. Des yeux profonds et froids comme le fond de l'univers, noirs comme la nuit perpétuelle qui commençait à l'envelopper. « Que se passe-t-il » s'écria à Eleanor. Elle se précipita elle aussi à terre, mais trop tard. Les réponses qu'elle cherchait désespérément étaient en train de s'éteindre dans les yeux vitreux de son frère et du sang lui scellait déjà la bouche. « Tu l'as tué ?» Keller s'écarta, interdit, et tous deux virent l'enfant, minuscule et hoquetant, sa main tremblante baignée de sang et la dague plantée dans le cœur de Joris. Ce fut la première image qu'Eleanor eut de son fils, une image qu'elle tenta d'oublier en vain par la suite, mais qui revint souvent la hanter. Cet enfant de 3 ans, pâle comme un fantôme, les yeux horriblement cernés de violet et de noir, maigre et malade, cet enfant qui semblait être une effrayante caricature de son fils chéri, la main ensanglantée et le regard si noir et si insondable qu'elle ne savait rien y lire. Elle fut reconnaissante à Keller de le relever et de le prendre dans ses bras, car elle en aurait été présentement incapable. Elle resta quelques secondes interdite, béante, les yeux fixés sur le visage de Joris, qui paraissait figé sur le point de révéler quelque incomparable secret, puis elle lui ferma les yeux. « Tout va bien, mon petit, » murmurait Keller. « Ton cauchemar se termine enfin. »« Qui êtes-vous ? » demanda la petite voix apeurée. « Je suis ton père et voici ta maman. » Eleanor se força à sourire, mais ils furent tous distraits de leur émotion par les bruits des combats qui se rapprochaient. Elle vécut la fin du combat dans une sorte d'état second. Keller lui avait confié l'enfant qui s'agrippait à elle. Elle se frayait un passage derrière lui, repoussant les attaques, cherchant le regard des frères sombres pour les contraindre. Cela lui parut durer longtemps, mais tout se déroula presque trop facilement. Les frères sombres tombèrent, les uns après les autres, emportant parfois leurs adversaires avec eux dans une étreinte mortelle. Bientôt les souterrains furent jonchés de cadavres vêtus de noir, auxquels se mêlaient quelques gens d'albâtre. Parmi les cris de joie et les effusions, Eleanor marchait toujours, le regard vide, serre contre elle l'enfant noueux qui s'accrochait à ses cheveux comme un insecte. Une répulsion secrète l'envahissait, et elle dut utiliser l'esprit pour lutter contre l'envie viscérale de le déposer à terre avant d'être arrivée à l'endroit du campement. Soudain, l'enfant eut contre sa poitrine un grand frisson, comme un haut-le-corps, et elle s'en inquiéta. Comme elle arrivait à l'extérieur, elle le regarda une seconde fois. Le tout petit garçon dardait des yeux éblouis et regardait par en dessous, courbé, comme si le ciel lui faisait peur. Il tremblait. Ses yeux vifs, rapides comme ceux d'une bête traquée, passaient à Eleanor aux alentours et revenaient à elle dans une stupeur indéfinissable. Il était toujours cette caricature d'Artus, mais il emplissait maintenant sa mère de pitié et non de dégoût, et elle ouvrit ses bras pour l'accueillir. Mais l'enfant ne comprit pas son geste, ni les paroles douces qu'elle prononça. À la vérité, il fronça même les yeux lorsqu'elle lui parla, comme s'il parlait une langue étrangère. Elle essaya en langue noble, en langue vulgaire, mais n'obtint aucune réponse. Il se contracta au moment où elle essaya de le toucher, et elle eut peur de sa réaction, comme de celle d'une bête sauvage. Il la laissa faire cependant, et en reprenant contre elle le corps maigre et sec, elle se sentit pleine d'une grande compassion et d'un désir brûlant de l'apprivoiser. Cette deuxième rencontre se superposa à la première, si différente, et à Eleanor, de ce jour, éprouva pour Knox des sentiments violents et parfois contradictoires qu'elle ne s'expliquait pas. Pendant ce temps, Keller fouillait les galeries avec quelques volontaires, et ils ne tardèrent pas à découvrir, dans une petite grotte brillamment éclairée de flambeaux, sur une couche grossière, un corps hideux, effrayant, terriblement brûlé, mais qui paraissait mort récemment. Keller ordonna qu'on le fît sortir, et tout le monde s'écarta, à la sortie du tunnel, devant la vision macabre. Les cadavres étaient nombreux, et des hommes et des femmes étaient en train de les rassembler et de les trier. Les frères noirs seraient brûlés sur place, tandis que les citoyens d'Albâtre seraient ramenés à la cité. Mais ce cadavre-là n'était pas comme les autres. Il était supplicié au-delà de l'imaginable et conservait dans sa rigidité même une sorte d'aura qui répandait une crainte sacrée. À Eleanor laissa Knox, qui avait recouvré la parole depuis quelques minutes, aux soins de Morga, et s'approcha de lui. On l'avait utilisé sa pierre frontale, sans doute pour demeurer impassible. « Il s'agit bien de Sornard, » dit-elle. Un murmure de soulagement parcourut l'assistance. « Il est froid ?» demanda quelqu'un. À Eleanor, sa pierre frontale brillante, toucha la main du cadavre. « Glacé, » dit-elle, « il est bel et bien mort. » Quelques-uns crièrent, éclatèrent de rire, se réjouirent. Mais à Eleanor demeurait sérieuse et pensive, ainsi que Keller qui la rejoignit bientôt. Des fables commençaient à courir dans les rangs, se répandant à la vitesse d'une traînée de poudre. « C'est grâce à Iraine, » disait-on. « Sa malédiction l'a finalement atteint. » « Tu sembles déçue, » dit Keller en s'approchant. « Je suis perplexe, » admit-elle. « Le combat était trop facile. Sornard était déjà mort. La partie était gagnée d'avance, et je ne comprends pas pourquoi. » « N'est-il pas possible qu'ils aient raison et qu'Iraine l'ait mortellement blessé ?»« C'est possible, bien sûr. Mais tu n'y crois pas. » « Non. » Elle tourna la tête machinalement vers Knox. « Joris n'a même pas essayé de se battre. Il s'est laissé tuer presque sans résistance. Nous étions venus pour en finir, et nous ne trouvons que des questions sans réponse. » Keller est une moue dubitative. « J'aimerais te rassurer, mais je partage ton inquiétude. Ce n'était pas un combat normal. » À quelques mètres, l'enfant se tenait immobile, l'air impénétrable, dans les bras de Morga. Keller et Eleanor échangèrent un regard où planait l'ombre de l'inexprimable. Keller ne pouvait pas évoquer les sombres prédictions d'Iraine et savait en son fort intérieur qu'il ne le ferait jamais. Elle ne pouvait pas décrire l'horreur instinctive que l'enfant lui avait inspirée au premier abord, à cause de la honte terrible qu'elle en ressentait. Ils hésitèrent, leurs langues liées par l'angoisse et le remords, incapables d'affronter la vérité. « Mais nous avons retrouvé notre fils, » dit-il. « N'est-ce pas ce qui compte ?»« Si, bien sûr, » dit-elle en se forçant à sourire. « Il a été très éprouvé, » continua Keller. « J'avoue avoir été surpris par son geste. »« Il s'en remettra à force de patience, » dit-elle. Ils se regardèrent encore et scellèrent un accord tacite, spontané, mais qui serait dorénavant difficile à briser. Ils ne parleraient pas ouvertement de ce qu'ils pensaient ou savaient de l'enfant. Ils enterreraient ses douleurs, ses remords et cette prophétie funèbre au plus profond de leur âme et se joueraient mutuellement la comédie de la normalité. Un malaise et une tristesse indicibles les prenaient cependant à l'idée de cette transparence perdue, de cette confiance soudain obscurcie, et ils restèrent un moment l'un contre l'autre, tristes d'une même tristesse silencieuse, au milieu de la joie sauvage qui éclatait autour d'eux, parmi les morts, dans cette forêt hostile, où le froid de la nuit commençait à givrer les feuillages humides. « J'ai peur, » murmura Eleanor en posant sa tête contre l'épaule de Keller. Il l'entoura de ses bras et s'efforça de rire. « Tu n'avais pas peur avant le combat, et tu as peur maintenant que nous sommes victorieux ?» Eleanor sourit, mais hocha une tête obstinée. « Notre vie va changer. » Keller l'embrassa sur sa cicatrice, amoureusement. « Ne pense pas à cela, et regarde dans les bras de Morga. Notre fils s'est endormi. » Et en effet, dans l'abandon du sommeil, le jumeau d'Artus, presque semblable à lui, ne paraissait rien de plus et rien de moins qu'un très petit enfant traumatisé et meurtri. À Eleanor pensa à Artus, si fort que les larmes lui vinrent aux yeux. « Tu pourras me rendre le sac, » pensa-t-elle, et elle regretta tout à coup qu'il ne fût pas là, à leur côté, pour lui insuffler de la force.